16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. En compagnie d'un garçon dont le sang corse ne va faire qu'un tour aujourd'hui. Et oui, parce qu'on parle des enfants de Napoléon. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour.
Oh, je ne sais plus. Vous êtes corse, vous êtes suisse, je m'y perds un peu. Vous êtes un peu tout à la fois.
Je suis insaisissable, Stéphane. Disons que je suis corse en temps de paix, suisse en temps de guerre. Mais oui, je suis ému qu'on parle aujourd'hui des enfants de celui qui est un peu quelque part mon aïeul.
Au programme aujourd'hui, en effet, si on connaît l'aiglon, le fils de Napoléon II, en quelque sorte, on va découvrir les autres enfants de Napoléon. D'abord, celui qui fut son beau-fils, puis son fils adoptif, Eugène de Beauharnais, héros méconnu de l'épopée napoléonienne. Puis je vous raconterai celle qui pourrait être la fille légitime de l'empereur, Charlotte Chapuis, que sa mère, prostituée, aurait eue après une relation sexuelle avec lui. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez non pas d'un enfant de Napoléon, mais de Napoléon lui-même. Enfin, presque.
Oui, presque. Il s'appelle Franck Sanson et il fut le sosie officiel de Napoléon de 2005 à 2015. Comment devient-on sosie officiel de Napoléon et surtout pourquoi ? Un sujet qui, j'en ai conscience, a divisé en conférence de rédaction. David a dit
« Même pour moi, c'est chelou ».
Ce qui vous situe un peu le niveau de chelouitude du sujet. Justement, il fait partie de notre fine équipe qu'on va présenter, Stéphane, maintenant.
Oui, là. Honneur aux dames.
Bien sûr.
Eh bien, Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde.
Mais bonjour messieurs, écoutez, ça m'étonnerait fort que David ait tiqué face au sujet Napoléon, parce que c'est un grand fan du Premier Empire, il touche vraiment sa vie, même fait un travail universitaire.
Il a fait un personnage de l'Empire.
Donc ne le dénigrez pas, ne croyez pas le connaître, vous ne le connaissez pas en fait.
Vous allez gentil pour lui, mais venons-en.
Alors si vous voulez, moi je vais vous parler de sexe sous l'Empire, parce que voyez-vous, quand on pense que Napoléon s'est longtemps cru stérile, finalement il a réussi à faire pas mal d'enfants à droite à gauche. Lui, il pouvait tout se permettre, accumuler les maîtresses. Mais qu'en était-il de ses compatriotes ? Eh bien, nous allons voir ça tout à l'heure.
Mm-hmm. On a hâte. David, votre petit chouchou est là. Clémentine, il est là. C'est votre protégé.
Membre du souvenir napoléonien.
Membre du souvenir napoléonien, ben effectivement. Voilà. Il adore ça. Vous avez participé à des reconstitutions un peu ?
Non, j'ai toujours hésité. Je me suis dit, en fait, j'aurais bien aimé, mais en fait, c'est vraiment le regard des autres qui m'en a empêché.
Et voilà. Si vous êtes déguisé, costumé, ça se voit, on ne vous reconnaîtrait pas.
On vous reconnaîtrait pas. Mais après, il faut payer cher en plus.
Ne dites pas déguisé un reconstituant, là vous allez vous prendre une bastos dans le buffet.
Il est sympa, mais il est radin, vous aurez noté quand même. Hein. Le pop-corn au cinéma.
Oui, on pense que c'est en même temps que le cinéma maintenant. Oui.
Non, c'est plus tard. De mon temps, on mangeait rien au cinéma.
Si, il n'y avait pas
les esquimaux au chocolat glacé, Stéphane.
Voilà, à l'entracte, on venait bonbons, esquimaux, chocolat.
Avec leur panier, avec la lumière en cuir.
Il y avait la roue tourne aussi.
Oui. Toute une époque.
Surtout, moi, je pense qu'il faudrait empaler le gars qui a autorisé les gens à manger du popcorn pendant les films. C'est insupportable.
On empale directement.
En plus, moi, vous savez...
C'est trop gentil.
J'ai grandi pas très loin de Waterloo, moi. Donc, on va dire que, voilà, Napoléon, la butte de Waterloo, le lion, ça me parle.
Reconstitution historique.
Alors, Olivier Pouls, vous, c'est une recette.
Oui.
Bah, une recette qu'on croit très bien connaître, puisque c'est vraiment.
Est-ce que Napoléon aurait pu manger un Paris-Brest, tiens ?
Non. Puisque c'est une course de vélo qui est postérieure. Ah
ben, mais là, vous donnez la clé de sa chronique.
Vous donnez des indices.
Attention.
Hein.
Ah oui.
Pas trop d'indices, Stéphane. On ne sait pas du tout. On ne sait pas d'où vient le Paris-Brest. On ne sait pas. On va voir. On va le découvrir avec Olivier Pouls tout à l'heure. Enfin. Et justement, il est un peu le Napoléon du quiz. Plutôt celui de Waterloo, celui d'Austerlitz. Stéphane Bern défiera l'invincible armada Portier-Kaltenbachienne dans Bern to be alive. Notre impitoyable battle quotidienne, ce sera comme d'habitude vers 5h-10. Mais tout de suite, découvrons l'autre premier enfant de Napoléon. Stéphane Bern nous raconte Eugène de Beauharnais.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes en 1805 lorsque Napoléon, désormais empereur des Français et roi d'Italie, choisit son beau-fils Eugène de Beauharnais, âgé de 24 ans, pour une mission capitale. Le représenter à Milan comme vice-roi d'Italie, c'est une preuve de confiance inouïe. Et un véritable challenge pour Eugène qui, depuis l'enfance, admire tant son beau-père. Mais il devra travailler d'arrache-pied pour ne pas le décevoir. Revenons aux origines. Eugène de Beauharnais est l'aîné des deux enfants du vicomte Alexandre de Beauharnais, officier de l'armée royale, et de la créole Rose Tachère de la Pagerie. Il voit le jour à Paris en septembre 1781. Comme souvent dans les familles aristocratiques à l'époque, le mariage des parents a été arrangé. Ils s'entendent très mal et se séparent alors que Eugène n'a que 2 ans. Quand les guerres révolutionnaires éclatent, Alexandre de Beauharnais, nommé chef à l'armée du Rhin, emmène son fils avec lui à Strasbourg. Pour le petit Eugène, cette ambiance militaire est une révélation. Tout y respirait l'amour de la gloire et de la patrie, se souviendra-t-il. Et c'est là que se développèrent en moi, pour la première fois, les impressions de ces sentiments. En 1794, nous sommes en pleine Révolution française. Les deux parents d'Eugène de Beauharnais sont emprisonnés. L'enfant a 12 ans, mais il se démène, sonne à toutes les portes pour les faire libérer. Malgré tous ses efforts, son père est guillotiné. Eugène se retrouve pris en charge par le général Hoche à l'armée de l'Ouest avant que sa mère Joséphine, libérée, ne le récupère. Eugène de Beauharnais termine ses études au collège irlandais quand un ordre du jour se répand dans Paris. Il devient défendu aux Parisiens sous peine de mort de conserver des armes chez eux. Eugène, qui a hérité du sabre de son père, ne supporte pas l'idée de s'en séparer et entame des démarches pour le garder auprès du général en chef de l'armée de l'intérieur, un certain Napoléon Bonaparte. L'émotion du jeune garçon touche Bonaparte, qui vient lui-même porter à Eugène l'autorisation si vivement désirée. Sa mère, Rose de Beauharnais, tient à remercier le général Bonaparte en personne. Charmé par sa beauté, il demande à la revoir. Cette rencontre romantique entre Napoléon et celle qu'il surnommera Joséphine, s'est-elle réellement passée ainsi? Nous n'en savons rien. Toujours est-il qu'ils deviennent amants, puis se marient. Pour Eugène de Beauharnais, l'avenir s'annonce bien. Nommé à presque 16 ans sous-lieutenant de hussards et aide-de-camp, il rejoint Napoléon Bonaparte en Italie. C'est une faveur, car la fonction est remplie d'ordinaire par des officiers plus aguerris. Entre les deux hommes, des liens forts se créent. Eugène de Beauharnais accompagne le général Bonaparte en Égypte, où ce dernier le protège autant qu'il peut. Un jour, alors que ce devrait être à Eugène de porter un ordre au cœur du Caire en pleine révolte, Bonaparte confie cette mission dangereuse à un autre soldat qui est tué pendant sa mission. De retour en France, Napoléon Bonaparte prépare un coup d'État. Eugène de Beauharnais y participe-t-il? Rien n'est moins sûr. Il prend du bon temps avec ses camarades, mais certaines mauvaises langues prétendent que sous ces dehors naïfs, le jeune homme serait une sorte d'espion à la solde de son beau-père. Napoléon, s'emparant du pouvoir, devient premier consul, puis empereur des Français en 1804. Eugène de Beauharnais a 23 ans le jour du sacre de sa mère et de son beau-père. Des rumeurs de divorce planent déjà car Joséphine, vous le savez bien Mathieu, n'arrive pas à donner un héritier à Napoléon. Mais l'affection que le nouvel empereur des Français porte à Joséphine, à Eugène, à sa sœur Hortense, l'empêche pour l'instant à se détacher d'eux. « J'aime ces enfants-là, confie-t-il, parce qu'ils se sont toujours efforcés de m'être agréable. S'ils se tirent un coup de canon, c'est Eugène qui va voir ce que c'est. Si j'ai un fossé à traverser, c'est lui qui me donne la main. » Il finira pourtant bien par divorcer de Joséphine quelques années plus tard. Napoléon ne peut désigner son beau-fils comme héritier puisqu'ils ne sont pas du même sang, mais il lui donne de nombreux gages de son affection. En 1806, il adopte Eugène de Beauharnais qui devient son fils, mais désormais aussi son Altesse impériale, le prince Eugène Napoléon. Peu de temps auparavant, il le nomme vice-roi d'Italie. C'est un cadeau empoisonné puisque Eugène se retrouve seul, loin de ses proches et dans un pays inconnu. Heureusement, un mariage heureux, bien qu'arrangé par l'empereur, l'aide à supporter l'éloignement. Eugène de Beauharnais fait la connaissance de la princesse Auguste de Bavière à Munich. Avant leur rencontre, on dit que l'empereur lui fait couper un peu sa moustache qui est très fournie. Eugène de Beauharnais se montre charmant, Auguste de Bavière est très belle. Tout se passe comme dans un conte de fées, les deux jeunes époux tombent amoureux l'un de l'autre et ont rapidement un premier enfant, une fille. Mais Eugène de Beauharnais n'a pas le temps de profiter de sa vie de famille car Napoléon compte sur lui en Italie. « Que je sache toujours où vous vous trouvez, où vous allez et ce que vous faites », exige-t-il. Et quand son fils adoptif lui donne des nouvelles, voici ce qu'il lui répond. « Votre lettre ne m'instruit en rien de ce que j'ai intérêt d'apprendre. Ou mieux, cela n'est pas travailler, c'est travailler en l'air ». En 1812, Napoléon lance la campagne de Russie. C'est un échec terrible. Les soldats souffrent du froid glacial, de la fatigue, de la faim. Napoléon devant rentrer d'urgence à Paris, il confie le commandement de l'armée à son beau-frère, le maréchal Murat. Catastrophe, ce dernier abandonne la campagne. Eugène, qui n'a que 31 ans, prend la relève, se retrouvant à la tête d'une gigantesque armée à bout de force. Au prix d'une remarquable retraite, Eugène de Beauharnais parvient à ramener l'armée en piteux état après les attaques conjuguées des Russes et des Prussiens. Après tant d'épreuves et de tensions, il a besoin de retrouver sa femme et ses enfants. Eugène de Beauharnais prend congé de l'empereur pour rentrer en Italie. Ils ne se reverront plus. Les ennemis de Napoléon s'allient et le forcent à abdiquer le 6 avril 1814. La chute de son beau-père et de l'Empire mettent fin à la carrière d'Eugène de Beauharnais. À 32 ans, le voilà retraité puisque de violentes émeutes en Italie l'obligent à renoncer à son trône de vice-roi. Présent au congrès de Vienne qui va décider des nouvelles frontières à l'intérieur de l'Europe, Eugène de Beauharnais espère obtenir une principauté à diriger. Mais une tentative de reconquête du pouvoir par Napoléon bouleverse ses plans. Soupçonné d'avoir aidé son beau-père, on le surveille de près. Sa correspondance est interceptée et 5 policiers demeurent en permanence devant chez lui. Eugène de Beauharnais n'évite l'arrestation qu'en donnant sa parole de ne plus quitter la Bavière, où le père de son épouse, le roi Maximilien, lui décerne le titre de duc de Leuchtenberg en même temps qu'il l'investit de la principauté d'Eichstätt. Eugène de Beauharnais se contente dès lors et jusqu'à la fin de sa vie de faire fructifier sa fortune et de veiller à l'intérêt de ses enfants. N'oublions pas tout à fait Napoléon, il enverra de grosses sommes d'argent pour adoucir son exil sur l'île de Sainte-Hélène. En 1823, il marie sa fille aînée, Joséphine de Leuchtenberg, au fils du roi de Suède, Charles XIV, il s'appellera Oscar. La fête donnée pour l'occasion est grandiose. On admire les magnifiques parures et bijoux de la mariée, héritée de sa grand-mère, l'impératrice Joséphine. Mais la fête est obscurcie par la santé chancelante d'Eugène de Beauharnais. Après plusieurs attaques, il s'éteint dans la nuit du 20 au 21 février 1824. Pour résumer sa vie, le célèbre poète allemand Goethe a ces mots. C'était un bel homme d'environ 42 ans, mais qui paraissait plus âgé. Et cela ne peut étonner quand on pense à ce qu'il a souffert et quand on se rappelle sa vie où campagnes et grands faits se succèdent sans interruption.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Eugène de Beauharnais, nous avons le plaisir d'accueillir l'historien Michel Quérotret. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Michel Quérotret. Vous venez de publier une riche biographie consacrée à Eugène de Beauharnais, fils et vice-roi de Napoléon, parue aux éditions Talendier. Il est fils avant d'être vice-roi. Il a évidemment une relation particulière, j'imagine, avec celui qui deviendra son père adoptif, Napoléon.
Napoléon l'accueille d'abord comme le fils de son épouse, le fils de Joséphine, et il s'attache très vite à Eugène, qui est un garçon docile, sympathique, et qui a perdu son père, qui reporte sur Napoléon l'affection qu'il n'a pas pu donner entièrement à son père Alexandre. Et donc, une relation très vite se crée entre eux, personnelle, au-delà de la filiation par rapport à Joséphine.
Et c'est bien une relation dans les deux sens, c'est-à-dire que Bonaparte aussi est attendri par ce garçon, il le considère aussi comme un fils.
C'est ça qui est très étonnant, c'est que je crois que Bonaparte a une fibre paternelle qui n'a pas pu s'exercer, sauf peut-être avec Eugène, bon, plus tard bien sûr avec le roi de Rome, avec son neveu, mais avec Eugène, elle trouve pleinement à s'exercer parce que il l'éduque en quelque sorte, il le forme, c'est son élève. Il a 14 ans quand Eugène arrive dans la vie de Bonaparte, et Bonaparte le forme. Et Eugène est un excellent élève, il est un élève docile, un élève qui a envie de bien faire, et ça Bonaparte l'apprécie beaucoup. Vous savez, son caractère impérieux souffrait pas trop de la contradiction, et Eugène ne le contredit pas beaucoup. C'est pas un adolescent rebelle, quoi.
Non, mais justement, vous donnez de lui une image, vous le dites, il est lisse, il est trop sage. C'est vrai que par rapport aux personnalités hors normes de cette époque, il a un côté
premier
de la classe. Il est même moins romanesque que sa sœur Hortense, par exemple.
Heureusement, en un sens, parce que Hortense a tellement souffert, on n'a pas envie de souhaiter à quiconque le destin d'Hortense. Mais quand j'ai dit qu'il est lisse, c'est pas trop l'opinion que j'ai portée moi-même. C'est ce qu'on dit souvent de lui, et donc je le cite pour le corriger en partie, parce qu'il n'est pas uniquement ça. Mais c'est vrai que, et puis n'oublions pas qu'il arrive après la Révolution, il arrive trop tard, dans un sens, il arrive trop tard dans un monde trop vieux, comme on disait autrefois. Oui. Et donc, il a il a 14 ans que la révolution se termine quasiment, et 17 ans quand Bonaparte, 18 ans quand Bonaparte prend le pouvoir. Donc c'est, il est pas en position d'exercer une fonction importante au début.
C'est pas un rebelle non plus.
Ah non, c'est pas, mais on voit pas trop pourquoi il le serait.
Oui. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Stéphane, à sa place?
Non, oui, vous avez raison, mais on se rebelle toujours contre son beau-père, vous voyez, on a...
Ah oui, c'est vrai que là, le côté beau-père n'a pas...
Voilà, il a conquis votre mère, etc.
Mais alors, justement, on sent qu'il est toujours là dans l'ombre de Napoléon. Napoléon a besoin de lui, mais en même temps, est-ce que s'il avait été son fils naturel, il aurait eu encore une position encore différente? Je pense que c'est terrible, parce que quelque part, on sent qu'il y avait un tel lien entre les deux que s'il avait été son fils de sang, il aurait peut-être été vraiment... il aurait une place encore plus importante dans l'histoire.
C'est très difficile, évidemment, à imaginer. Napoléon a eu un fils par le sang qui est le roi de Rome. Malheureusement, ça s'est terminé. Il avait 3 ans.
Bon, c'est mal terminé.
Donc, c'est très difficile de le savoir. Napoléon, c'est vrai, croyait beaucoup au droit du sang. C'est son côté peut-être corsin. Et donc, on peut le regretter parce qu'il a du coup de privilégier ses frères qui n'étaient pas toujours au même niveau que Jeanne par la qualité personnelle.
Comme Stéphane l'a dit dans son récit, c'est par le sabre que tout a commencé entre Eugène et Napoléon. Cette anecdote, non dénuée de romanesque, raconte quelque chose de leur relation qui semble avant tout militaire.
Oui, alors, oui, bien sûr, un sabre, c'est lié, en effet, à la chose militaire. En même temps, je crois que c'est aussi une transmission de paternité, quelque part. Parce que c'est le sabre d'Alexandre de Beauharnais. Oui. Et que Eugène demande à Bonaparte de lui laisser ou de lui rendre, on ne sait pas, il y a des versions différentes. Et donc, c'est peut-être la transmission de la paternité qui s'exerce par ce sabre. Plus peut-être que la chose, bien sûr, la chose militaire aussi.
Non, mais c'est très symbolique, oui.
Mais, au fond, il y a des moments où Napoléon protège son beau-fils. On le voit par exemple dans la campagne d'Égypte, et d'autres moments où au contraire il l'envoie au feu, cette terrible aventure de la campagne de Russie c'est un échec annoncé.
Oui, mais c'est ce qu'on disait tout de suite à l'instant, la chose militaire, s'il y a un risque, évidemment, il y a un risque de se faire tuer quand on fait la guerre, et Bonaparte lui-même, Napoléon, et il a pris aussi pour Eugène. Et il se moque un peu d'Hortense quelquefois, parce qu'Hortense voudrait relayer le désir d'Eugène de se battre, et Napoléon lui dit, et le petit frère s'il se faisait tuer, bon, c'est toujours un risque. Et en effet, en Égypte, il y a cet épisode un peu cruel, où Eugène est tête de camp de Bonaparte, il doit remplir son tour, parce que c'était chacun son tour, les aides de camp, remplir une mission difficile dans le Caire, insurgé, avec des risques à tous les coins de rue. Et là, ce jour-là, il se dit non, il est trop jeune, il a 17 ans, peut-être il saura pas faire, puisqu'il s'agit de parler à un peuple en armes qui est musulman. Et là, il hésite et finalement, il envoie quelqu'un d'autre. Et l'autre se fait tuer. C'est vrai que c'est un peu tragique comme histoire. En même temps, ça peut se comprendre à la fois humainement, peut-être aussi politiquement, parce que Jeanne a 17 ans, est-ce qu'il sera capable de gérer cette situation?
Mais l'autre n'a pas été capable.
L'autre n'a pas été capable non plus, et il est mort. Et c'est dommage. En plus, c'est une figure très émouvante, c'est Sulkowski, c'est un Polonais, peu connu, mais bon, ce jour-là, en effet, Bonaparte a protégé son fils. Ouais.
Vous lui reconnaissez dans votre biographie courage et sang-froid. C'est vrai qu'il a, dans cette déroute... cette retraite de Russie, il a réussi à sauver les meubles, en fait.
Autant qu'on pouvait le faire. Hein. Il a pas sauvé quand même grand-chose. Mais oui, il s'est bien comporté, il s'est bien battu. Il s'est battu à la Moskova. Il a été l'un des principaux acteurs de la fameuse bataille de Borodino, la Moskova. Il a remporté une victoire personnelle même après, au moment de la retraite, à un village qui s'appelle Malo-Yaroslavets, où c'est lui qui a gagné vraiment tout seul cette bataille.
Quand il était tout seul, il n'y avait plus Napoléon déjà.
Napoléon était en arrière, lui était en avant-garde. Napoléon n'était pas parti encore, mais il était tout seul à gérer cette bataille. Et après, au moment de la retraite, quand Napoléon a décidé de quitter la Grande Armée après la Bérézina pour rentrer, il aurait pu laisser l'armée à Eugène à ce moment-là, mais il y avait Murat, et Murat était plus âgé, était le roi de Naples, et bien que l'armée ait préféré Eugène, Napoléon a choisi Murat. Et puis Murat, 15 jours plus tard, il a filé, il est retourné à Naples, et du coup c'est Eugène qui a hérité à ce moment-là de l'armée. Et c'est là, en effet, qu'il a joué un rôle personnel important.
Donc on parlait de cette relation filiale, moi ça me fascine assez. Il a été un véritable père pour lui, on l'entendait dans la tonalité qu'il avait dans les lettres, il était parfois un peu bourru avec lui, c'était vraiment comme un papa, quoi. Est-ce qu'on sait si Napoléon s'est comporté ainsi avec ses autres enfants, entre guillemets? Est-ce qu'il est, ou ce lien était pas propre à Eugène de Beauharnais?
Je pense qu'en effet, c'est une relation originale. Les autres enfants, bon, le roi de Rome, il était un papa gâteau, mais le roi de Rome, non, il a 3 ans, oui. C'est pas pareil. Bon, il a eu un neveu avec qui aussi il s'est comporté aussi, mais c'était un enfant qui est mort à 5 ans. Donc, il n'y a pas eu d'autres occasions. Et avec Eugène, on voit Napoléon, en effet, un père sévère, mais un père en même temps tendre. C'était une combinaison originale. Il trouve du répondant, parce qu'il y a eu des relations de Napoléon avec son frère Louis, par exemple, qui était un peu de ce type. Sauf que Louis était un très mauvais sujet, du coup, il n'a pas eu les réponses que Napoléon a eues avec Eugène, et qui ont fait qu'il s'est attaché à lui.
Il y avait de l'admiration de la part d'Eugène envers Napoléon. Est-ce qu'il y avait cette même admiration entre Napoléon envers son beau-fils et son fils adoptif ?
Il y a quand même une dissymétrie. Hein. Eugène admire, d'abord il y a la génération, mais de toute façon la personnalité n'est pas du tout la même. Eugène admire bien sûr Napoléon, et il l'aime aussi. Napoléon aime Eugène. Alors il y a un jugement intéressant qui porte sur Eugène, qu'il exprime à Sainte-Hélène. Il disait « Eugène, c'est une tête carrée », c'est-à-dire quelqu'un qui a des dimensions égales dans toutes les directions. Et Napoléon disait en gros, il y a deux choses qui font les grands capitaines ou les grands hommes, c'est le caractère et l'intelligence ou la raison. Eugène avait un équilibre entre les deux, ce qui évite les grandes audaces, mais aussi les grandes catastrophes. Il était capable de d'avoir les deux, de garder son sang-froid, mais de pas prendre de risques abusifs.
Mais justement, vous affirmez qu'il aurait peut-être pu rencontrer le plus haut niveau de l'histoire s'il n'était pas mort prématurément à 42 ans. Quel destin vous auriez pu lui imaginer ? Parce qu'au fond, il était un peu après la chute de l'Empire. On voit bien qu'il est un peu désemparé, qu'il n'a plus d'emploi au fond.
Non, il a la chance d'avoir une base de repli, et bien sûr pas de même niveau, mais il a quand même cette base en Bavière. Il a 32 ans, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, on dirait qu'il était en réserve, peut-être pas de la République, mais de l'Empire, il aurait pu, on peut tout imaginer, mais c'est une uchronie. Il aurait eu 45 ans, 48 ans en 1830. Bon, Louis-Philippe était plus âgé, qui sait. Enfin, tout ça, c'est des rêveries, mais...
Il a jamais rêvé de reprendre le pouvoir. Un moment.
Non, il était trop pondéré, Stéphane.
Non, il était trop.
Mais il l'aurait pas pris par la force. Oui, maintenant, si on lui avait apporté.
Ce qui est assez amusant, et c'est une ironie de l'histoire, c'est que Napoléon divorce de Joséphine parce qu'elle ne peut pas lui donner d'enfant, mais que les enfants d'Eugène de Beauharnais vont fonder toutes les dynasties royales européennes, puisque par le mariage de sa fille Joséphine de Leuchtenberg avec Oscar de Suède, on descend tous les souverains d'aujourd'hui.
Presque, en tout cas, oui, c'est assez étonnant, effectivement, ce destin. On a dit que Victoria était la grand-mère de l'Europe, mais Joséphine aussi est une, sur cette façon la grand-mère de l'Europe, c'est vrai.
C'est assez injuste pour ce pauvre Napoléon. Oui,
on a quand même l'impression, globalement, d'un rendez-vous manqué avec l'histoire, parce que est-ce que c'est aussi lié au fait qu'il a été trop tôt placé sur la scène politique et militaire ? Il a été cramé un peu.
Non, ça, je pense pas qu'on puisse dire ça. Il est arrivé tôt, mais parce qu'il était, au contraire, moi je dirais qu'il est arrivé trop tard. Parce qu'il
trop tard, mais il commence à 16 ans, il nous dit,
il commence à 16 ans, mais 16 ans quand il arrive à la fin de 97, donc il était pas en 89. Voilà, c'est ça la grande différence avec les grands acteurs de l'époque.
Pour terminer, Michel Cotto, vous dites, la vie de Gênes est aussi un miroir où regarder Napoléon sous un jour un peu différent. Et qu'est-ce que vous avez découvert, justement, par le prisme de la vie d'Eugène de Beauharnais sur le personnage Napoléon Bonaparte ?
Différent, ce serait peut-être ambitieux de prétendre différent, mais je pense que déjà cette relation paternelle de Napoléon avec Eugène, c'est, on voit Napoléon comme une sorte, de toute façon, une figure paternelle universelle, un père dur, en général, un père fouettard, un père sévère. Et avec Eugène, il est toujours un peu sévère, mais il est aussi affectionné, tendre, etc. Donc c'est essentiellement ça. Et puis après, de voir comment Napoléon a traité certains de ses frères, par exemple frères ou beaux-frères, Murat à Naples, Louis en Hollande, qui ont été eux, il les a très très mal traités, mais il l'avait aussi un peu cherché. Avec Eugène, on voit ça de très différemment. Et Eugène a été probablement le meilleur collaborateur de Napoléon, le plus.
Il est peut-être le fils qu'il aurait aimé avoir.
Probablement, oui, je pense qu'il est le fils qu'il aurait aimé avoir. Le problème, c'est qu'il croyait essentiellement au droit du sang.
Toujours ce côté corse, encore Stéphane.
Voilà, toujours ça.
On s'en défait pas.
Et c'est vrai que s'il avait été un peu moins attaché au sang, il aurait pu, en effet, investir Eugène de sa succession. Ça n'a pas été le cas.
Merci en tout cas, Michel Cairotret, pour tout savoir sur Eugène de Beauharnais, fils et vice-roi de Napoléon. J'invite nos auditeurs à lire votre passionnante biographie qui vient de paraître aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires parfois, alors un peu olé olé. Hein. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez la sexualité sous l'Empire, en 6 minutes douche comprise.
Oui, oui, j'ai lu pour vous aujourd'hui le sexe sous l'Empire de Jacques-Olivier Boudon. Et alors, chose essentielle à retenir, c'est que dans l'histoire de la sexualité, la Révolution et l'Empire constituent vraiment une période charnière, en vrai.
Charnel,
oui, j'ai beau jeu.
Les deux.
Beau lapsus révélateur. Une période charnière, un tournant. Le 18e, vous le savez, c'est le siècle du libertinage, hein, celui où paraissent les liaisons dangereuses, les ouvrages érotiques de Mirabeau, de Dominique Vivant-Denon. Je suppose, messieurs, que vous avez tous les deux lu Point de lendemain.
On l'a même surligné au Stabilo.
Point de lendemain. Et bien sûr, les romans de Sade. Napoléon a eu entre les mains Justine et les infortunes de la vertu. Il a considéré que c'était absolument abominable. Hein. Et les exemplaires de Justine seront saisis.
Oh, c'est soft, pourtant.
Mais bien sûr, évidemment, alors la haute société, notamment, est totalement imprégnée de ces lectures coquines. Mais en réalité, ce libertinage ne concerne qu'une frange très minime de la population française. L'essentiel de la population, bien sûr, vit dans un cadre bien plus strict, un cadre dominé par l'Église catholique.
Oui, mais en même temps, après la Révolution, il y a eu, vous savez, comme toutes ces périodes, il y a eu un débordement.
Comme une fois qu'on sera tous vaccinés.
Justement, si vous voulez, c'est que...
La culotte sur la tête.
Avant la Révolution... Si vous voulez, il y a des proscriptions par l'Église catholique, c'est-à-dire il y a des temps clos. On appelle ça des temps clos. Ben, c'est des temps pendant lesquels il est strictement interdit de faire l'amour.
Ah bon
pendant la période de Noël et avant Carême, rien du tout.
Comme vous dites, c'est interdit. C'est pendant toute la durée de autour de Noël, on n'a pas le droit de faire l'amour.
Oui, mais
et
oui,
c'est bien,
ben, bien sûr,
sont des. Comment voulez-vous qu'il naisse
mais
le petit
alors,
Jésus?
C'était très bien respecté, bien sûr, parce que si vous voulez pouvoir communier,
bah oui.
Vous devez vous confesser et recevoir l'absolution.
Et sinon, vous n'avez pas les derniers sacrements, donc
j'avais oublié.
Et mourir sans les derniers sacrements, ça, c'est pas possible.
Vous voyez, donc si le curé va forcément vous interroger sur vos pratiques sexuelles, est-ce que vous n'avez rien à vous reprocher?
De quoi je me mêle?
Écoutez, quand je vous parle des temps clos, c'est ça. Mon fils, avez-vous bien respecté les temps clos? Ah non? Ah bah alors, pas d'absolution.
Bah, on ment.
Donc pas de communion.
Vous mentez au prêtre. Stéphane, vous mentez dans le confessionnal? Vous avez beaucoup menti dans le confessionnal? Souvent, mais d'accord.
Chapeau. Bah, alors écoutez, en tout cas, là où vous avez raison, c'est que bien sûr, il arrive la Révolution, politique de déchristianisation à partir de l'automne 93, et donc il y a pratiquement plus de prêtres dans les paroisses françaises. Donc plus de prêtres, donc plus de messes, donc plus de confections, donc plus de communion, naturellement. Et l'effet qui va paraître assez vite, c'est d'abord une pratique de contrôle des naissances, y compris dans la paysannerie. Alors on pratique le coitus interruptus, et puis on voit apparaître, bien sûr, le préservatif désigné sous le thème de condom. Ça va pas se faire d'un jour à l'autre. Mais sur cette période, on observe que le taux de natalité baisse. C'est pas grand-chose, mais en 30 ans, il y aura 5 enfants de moins pour 1000 habitants. C'est pas négligeable non plus, d'autant que cette baisse significative va s'accentuer au cours du 19e. Donc les gens veulent moins d'enfants. Et ils veulent moins d'enfants d'autant plus que, comme la Constituante a supprimé le droit d'aînesse, faut pas avoir trop de gosses parce que sinon, on doit diviser le patrimoine. Hein. En tout cas, avec Napoléon, il y a le concordat de 1801, réconciliation avec l'Église, mais en tout cas, je peux vous dire que les temps clos, ça c'est terminé, les gens veulent plus trop en entendre parler. Et fait notable sous l'Empire, on va passer de 200 000 mariages au moment du consulat à 390 000 en 1813. Pourquoi? C'est pas parce qu'il y a plus de jeunes de 20 ans qui veulent se marier, c'est que comme il y a la guerre et que si vous êtes marié, vous n'allez pas vous battre, alors tout le monde cherche à se marier. Et il y a plein de jeunes hommes qui vont épouser des femmes de 70 ans. Alors après l'Empire, ils expliqueront que c'était un acte politique, ils ne voulaient pas participer aux campagnes napoléoniennes, etc. Tu parles, le problème, c'est que là, le divorce n'existe plus. Donc, il y a des quantités de jeunes gens qui se sont retrouvés mariés.
On devenait veuf très vite.
Ah bah oui.
Ça dépend. Hein. En tout cas, il y en a qui sont restés mariés avec des octogénaires alors qu'ils avaient 25 ans. Bon, évidemment aussi, autre phénomène notable sous l'Empire, la mobilisation d'une armée de jeunes qui va changer la sexualité. Vous avez 2 millions de jeunes gens célibataires qui quittent leur foyer vers 20 ans et qui vont découvrir la sexualité en dehors de leur pays. Alors, naturellement, la sexualité en dehors de leur pays, c'est aussi beaucoup la masturbation. Condamnée par la médecine.
La médecine.
Ah bah oui, c'est très mauvais. Vous savez pas que ça rend sourd, la masturbation. Il y avait des espèces de un peu comme les ceintures de chasteté, des dispositifs qui empêchaient les messieurs de se tripoter la nuit dans les pensionnats. Alors, on a quelques témoignages quand même dans la Grande Armée. Le journal d'un notable du Dauphiné qui note toutes ses relations sexuelles et toutes les relations sexuelles, y compris en solitaire. Et on a le journal de l'aide de camp du général Menoux qui évoque ses relations virtuelles avec sa jeune maîtresse à distance. Donc, le dimanche, quand on s'arrête de galoper dans les plaines orientales, et ben tous les dimanches à 11h du soir, en pensée, l'été, voilà, on galope de façon différente. Tous ces jeunes, ils découvrent aussi, bien sûr, la prostitution, parce qu'il y a la prostitution dans les villes de garnison, la prostitution quand on est une armée d'occupation. Ces prostituées, elles accompagnent les maris en campagne. Hein. Je vous ai parlé déjà des Sigisbées, de la stupéfaction des soldats français arrivant en Italie en disant, mais c'est dingue, ici, les femmes ont des amants officiels. Malheureusement, il y a le revers de la médaille qui est aussi le viol, naturellement. Et on a vu qu'après 1815, il y avait une recrudescence des viols parce que toute cette génération de jeunes gens avait quand même pris des mauvaises habitudes de dominateurs en campagne. Enfin, plus joyeusement, il y a aussi tous ces mariages qui se font au sein de la Grande Armée avec des cantinières qui jouent un rôle très important. Et la Grande Armée en marche, c'est une famille en somme. Parce qu'il y a des familles de 5 enfants, les cantinières, les gamins, et tout le monde suit. Il y a des prostituées, des cantinières, des enfants. C'est ça l'image d'Épinal de la Grande Armée. Écoutez, en tout cas, le code civil de Napoléon va bien essayer d'encadrer les nouvelles mœurs, et notamment en interdisant le divorce, en reconnaissant pas les enfants naturels. Enfin, désormais, après l'Empire, hein, les esprits sont quand même davantage enclin au libertinage qu'à la moralisation. Et pour aller plus loin, Le sexe sous l'Empire de Jacques-Olivier Boudon à la librairie Vuibert, une lecture, ma foi, bien instructive.
Ah, ben ça, vous me l'offrez pour mon anniversaire.
Merci beaucoup, Clémentine.
Un petit quiz, ça vous dirait, les amis?
Ah oui,
je
allez.
Vous sens très très chaud, là. Après cette petite page libertine, ça va vous faire du bien.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chaque jour, vers 5h-10, c'est l'incompréhension. Stéphane Bern a pourtant une tête de bon élève, voire de premier de la classe. Chaque jour, il se présente au quiz avec ses lunettes, ses stylos, ses crayons bien taillés. Il n'y a qu'une chose qu'il oublie à chaque fois, ses neurones.
J'avais bien qu'il manquait un truc.
Jouons à Bern to be alive, notre célèbre quiz. Stéphane, la première question est, comme le veut la tradition, pour vous. Question 5e République et séparatisme. En France, aujourd'hui encore, l'archevêque de Strasbourg et le diocèse de Metz sont nommés par le président de la République. Vrai ou faux? Attention, il y a peut-être un piège. Et quand je dis peut-être, ça signifie que c'est une possibilité.
L'archevêque de Strasbourg et
l'archevêque et le diocèse de Metz.
Alors,
sont nommés par le président de la République encore aujourd'hui.
Ils ne sont pas nommés par le président de la République. Ils sont nommés par le Vatican, mais soumis, leur nom est soumis au président de la République, parce que il y a toujours le concordat avec l'Alsace et la Lorraine. Mais la nomination est faite par le choix est fait par le Vatican.
Sur le plan administratif, ils dépendent du ministère des cultes, de même que le salaire des prêtres et des pasteurs.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné. Et en cas d'égalité, ou si jamais vous êtes en retard d'un point au final, vous aurez même 2 points. Parce que vous nous avez donné la bonne réponse en déjouant le petit piège. C'est vrai, mais c'est faux à la fois. Vous l'avez parfaitement formulé, Stéphane. Alors, je ne sais pas si je dois le répéter. On le doit à Napoléon Bonaparte. Ce dernier a signé avec Picette le Concordat de 1801. En 1905, avec la loi sur la séparation des églises et de l'État, le contrôle par les autorités publiques sur les représentants de l'Église a disparu, sauf dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Concrètement, comme vous l'avez dit, c'est le Vatican qui choisit. Le président ne fait que signer, mais en 2013, mini-scandale, Stéphane, en 2013, Manuel Valls avait tiqué sur une nomination, mais ça s'était réglé diplomatiquement sans trop de problèmes. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kelsenbach. On se souvient du goût de Kennedy pour les femmes, toutes les femmes, et ce de façon un peu obsessionnelle, mais ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'il a été le premier président américain à gracier la dinde de Thanksgiving. Vrai ou faux?
Il a voulu supprimer cette tradition de la dinde.
Ah, je ne vous dis pas ça, je me demande si c'est le premier qui a gracié la dinde de Thanksgiving.
Il a gracié la dinde.
Il a gracié la dinde, oui.
Oh, qu'est-ce que ça veut dire, gracié?
Elle a été sauvée, on ne l'a pas cuite.
Oui, ça j'ai bien compris. Mais il a sauvé toutes les dindes de tous les États-Unis.
Non, il y a toujours une qu'on présente au président. Pour Thanksgiving, on présente une dinde.
Ah, j'ignorais ce détail.
Ah oui, et le président, traditionnellement, gracie la dinde.
Oui, tout le monde l'a fait, Trump, Obama. Ouais. Et ma question est, est-ce que c'est lui Kennedy qui a inauguré cette tradition? Oui.
Oh, bon, écoutez... Comme il avait vu le feu pendant la guerre, peut-être qu'il était extrêmement pacifiste ou qu'il a voulu inaugurer sa présidence par une grâce présidentielle. Je veux dire, oui, je connaissais pas cette histoire.
Vous avez gagné !
Et c'était en 1963, c'est le quatrième jeudi de novembre et tous les ans, on estime à plus de 46 millions de dindes qui passe au four à cette occasion, sauf la dinde qui a la chance d'être Maison Blanche, qui, elle, est graciée. Je ne sais pas ce qu'ils en font, d'ailleurs, de cette dinde.
Mais ils la rendent. Je sais pas, en tout cas, il y en a une autre qui est dans le four. Hein.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. En France, la garde républicaine, durant son histoire, a souvent été dissoute, puis refondée. Elle a été créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Elle est commandée par un général de division avec deux régiments d'infanterie, un régiment de cavalerie, un état-major et des formations musicales. Ça suffit, je crois que j'ai dit assez de choses là-dessus. Vrai ou faux, la garde républicaine achète ses plumes au Moulin Rouge?
Absolument pas. Parce que les plumes, je les ai vues parce que je parraine un peu de trois activités de la garde républicaine à la caserne, au quartier, on dit pas caserne, c'est un quartier. Il y a les Célestins, ça c'est les Célestins, et il y a celui de la place de la République. Et là, eh bien, vous avez les celliers, vous avez les plumassiers, vous avez les gens qui travaillent justement sur... alors, que maintenant ils se fournissent chez le même plumassier...
Ils ont le même plumassier, c'est ça, que le Moulin Rouge, sans doute.
Ils ont peut-être le même plumassier, mais ils ne se fournissent pas au Moulin Rouge. Il y a un piège, là. Ils ne se fournissent pas au Moulin Rouge, ils ont peut-être le même plumassier que le Moulin Rouge. C'est un peu différent.
C'est la régie qui décidera.
Vous avez...
Ah oui, ils sont gentils avec vous. Oui, c'est vrai, vous avez donné la bonne réponse, Stéphane. C'est exactement ce que vous avez dit. Plus exactement, la garde républicaine se fournit à la Maison Février. Ce sont des plumassiers qui existent depuis 1929.
Le dernier plumassier, non?
Le dernier,
parisien.
Oui.
Mais qui a été racheté par le Moulin Rouge. Oui. Voilà, les autres clients, des maisons de haute couture et l'Académie française, où vous rentrerez bientôt, Stéphane, probablement. Vous n'avez pas déposé votre candidature déjà?
Non.
Ou pas? Ça viendra un jour.
Bah, je ne sais pas, pour le moment, non.
Vous avez publié suffisamment de livres, en tout cas.
Oui, mais ben, c'est pas au nombre de livres. Oui.
Si, c'est au poids maintenant. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le 25 juin 1984 commence la construction à Bucarest, là où Stéphane avait acheté cette chemise à motif, des motifs d'enfance.
D'ours polaire.
D'ours polaire, très très beau. En 84, donc, commence la construction à Bucarest du palais du Parlement qui abrite encore aujourd'hui le Sénat et la Chambre des députés. C'est le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. C'est pas la question, ça c'est vrai, je vous le dis. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a été entièrement financé par le Kremlin. Vrai ou faux?
Ça me paraît énorme quand même.
Et Ceausescu a rasé des quartiers entiers pour construire ça. Il y avait, je crois, 7 ou 8 églises qui ont été...
Là, vous êtes en train de fournir des éléments de réponse à Clémentine.
Tout ça, je le sais. Ce sur quoi... Non, mais ça, qu'il est rasé, on a tous vu des images de la ville rasée de ce palais mégalomane. Mais la question, c'est est-ce que les Soviétiques auraient financé de A à Z pour un pays frère? Bien sûr, ils étaient prêts à cracher aux bassinets. Mais est-ce qu'ils auraient financé l'intégralité de ce truc gigantesque? C'est ça qui me paraît étonnant. En même temps, si c'est faux, la question est un peu dépourvue d'intérêt. Donc, je serais tenté de dire que c'est vrai.
Vous avez...
C'est le piège de tout ce jeu du quiz, c'est que certaines questions sont dépourvues d'intérêt. Pour vous piéger, effectivement. Non, en fait, l'objet de cette question était de vous révéler comment il avait été financé, ce qui s'était passé, mais visiblement, vous connaissez déjà cette affaire. Il a coûté, ce palais, l'équivalent de 40% du PIB de la Roumanie sur 5 ans. Voilà, donc il a fallu détruire une trentaine d'églises, vous l'avez dit, 7000 maisons. Il sera largement pillé durant la chute de Ceausescu en 89, mais aujourd'hui, il abrite le Parlement roumain.
Et donc, il a été entièrement financé par le peuple roumain, en fait.
Entièrement financé par le peuple roumain, effectivement, sans complexe. Hein. C'est Stéphane qui remporte le quiz du jour. C'est une belle victoire, Stéphane. Et je sens que vous êtes ému, puisque vous envoyez des textos, probablement pour dire à vos proches, j'ai remporté le quiz. Victoire.
Mais ça y est, voilà. Tout le monde est... branchez-vous sur Europe 1.
Ah oui, vous dites ça. Oui. Branchez-vous pour célébrer ma victoire.
Bah voilà.
Bravo, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, toujours dans une franche bonne humeur et en compagnie du dernier témoin de l'épopée napoléonienne, car oui, Stéphane Bern fait partie des chanceux qui ont connu personnellement Napoléon Bonaparte. Un type bien, un type droit en tout cas, nous confirmait-il hors antenne.
Quand on prête un livre à Napoléon, il le rend toujours.
Oh, Stéphane serait-il un des enfants cachés de Napoléon ? C'est en tout cas notre thème du jour.
Oui, on a évoqué le destin de son beau-fils et fils adoptif, Eugène de Beauharnais. Je vais maintenant vous raconter l'histoire d'une certaine Charlotte Chapuis, dont la légende prétend quelle serait la fille naturelle de l'empereur.
Mais c'est faux.
Bah, vous verrez.
Bon, moi, j'ai pas trouvé d'enfant, mais j'ai trouvé mieux. Napoléon lui-même, le vrai, il est vivant, enfin presque. Son sosie officiel est vivant, mais promis, il est hyper ressemblant et il a une histoire complètement dingue. Il s'appelle Franck Sanson, ça va être super. Vous savez, les sosies sont rarement décevants.
Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Apprendre à me connaître.
Justement, en parlant de flairer, jume de Fragance, qui, je le sais Stéphane, vont réveiller pas mal de souvenirs pour vous dans le studio. Ça sent le pop-corn et le Paris-Brest. Forcément, vous vous dites...
On va s'en fourrer jusque-là.
Et oui, David et Olivier nous ont rejoints. Aujourd'hui, c'est un 100% gastronomique, les gars.
Oui, alors, pour ma part, c'est pas tout à fait les origines du pop-corn, c'est les origines de la présence du pop-corn
au
dans les cinémas.
Voilà. Qui ne va pas de soi.
Qui ne va pas de soi, exactement.
J'aurais pu vous faire l'origine du pop-corn, du coup, mais enfin,
ben oui.
En même temps, il n'y a rien de plus con que de faire chauffer des grains de maïs.
C'est vrai, ça va vite.
Vrai. Ouais, ça va assez vite. Donc, du coup, je me suis attaqué à plus ambitieux. Le Paris-Brest, une magnifique pâtisserie, vraiment délicieuse quand elle est bien faite.
Oui, mais vous allez nous raconter l'histoire du Paris-Brest. D'habitude, c'est associé à la recette pour qu'on puisse le faire chez soi.
Je vous donnerai une recette d'un Paris-Brest réalisable.
Réalisable, parce que c'est quand même très compliqué.
C'est un petit peu technique. Et puis, je vous dirai d'où il vient, pourquoi cette pâtisserie.
C'est technique. Vous, quand vous voulez un Paris-Brest, vous le faites vous-même, Stéphane ?
Non, je vais à la boulangerie, oui.
Stéphane, vous aurez le mot de la fin. D'où vient le verbe baragouiner ?
Oui. Je vous déçois tout de suite, Mathieu, rien à voir avec un débit de boisson pour les femmes qui aiment les femmes.
En 38 ans de jeu de mots pourris, celui-ci, j'avais jamais pensé. Je vous dis chapeau, Stéphane.
Il a fallu un petit peu de temps pour que
chapeau,
ça tombe.
Chapeau, Stéphane, ou plutôt bicorne. Car oui, tout de suite, tâchons de percer le mystère. Charlotte Chapuis, fille présumée de Napoléon.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes en 1794, Antoinette Catin, une...
Oh non, on est le 1er avril, oui. Stéphane ?
Non, un nom prédestiné. Une jeune prostituée de Bourgogne, oui. Ça ne s'invente pas, fait la rencontre à Auxonne d'un officier de l'armée française, le sous-lieutenant Napoléon Bonaparte. Ils passent une soirée, peut-être une nuit ensemble, puis se séparent. En partant, Antoinette ne le sait pas, mais elle emporte un souvenir de son amant. Elle porte l'enfant de celui qui deviendra des années plus tard Napoléon Ier, empereur des Français. Tandis que le sous-lieutenant Napoléon Bonaparte s'envole vers son brillant destin, Antoinette Catin est chassée de chez ses parents, scandalisée de savoir leur fille enceinte d'un inconnu. La petite Charlotte naît donc en 1795 à Arnay-le-Duc sous de fâcheux auspices. Pour lui donner un nom, sa mère épouse un moine défroqué nommé Chapuis. Charlotte n'a pas le temps de le connaître puisqu'il meurt alors qu'il est encore très jeune. Antoinette Catin exerce toujours le métier de prostituée, c'est donc l'oncle de la petite Charlotte qui se charge d'elle. Chez lui, Charlotte connaît une enfance heureuse, sans histoire. Pour parfaire son éducation, l'oncle l'envoie dans une pension parisienne. Elle y apprend à lire et écrire l'histoire de France et quelques mots de latin. Quand Charlotte Chapuis sort de pension à 17 ans, c'est pour se rendre au chevet de sa maman mourante qui lui confie alors le secret de sa naissance. « Ton père est un officier corse que j'ai bien connu à Auxonne. On l'appelait Bonaparte à l'époque. Il a fait son chemin depuis. Il est devenu empereur. » Charlotte Chapuis est bouleversée par cette révélation. Elle brûle d'être reconnue, d'être aimée. Un soldat qui passe lui fait tourner la tête, puis un officier, puis encore un autre. Son oncle craint qu'elle ne tombe dans la prostitution comme sa mère et lui demande de partir. Où se rend Charlotte Chapuis ? Peut-être à l'île d'Elbe, où son célèbre père Napoléon Ier a été exilé après sa chute. Nous n'avons aucun témoignage, mais il est peu probable que la jeune femme ait réussi à rencontrer l'ex-empereur. Charlotte Chapuis se rapproche tout de même des milieux bonapartistes. En 1815, elle emménage à Salins, où elle ouvre une pension pour jeunes filles. La beauté de la jeune femme, sa silhouette élancée, son teint de porcelaine et une magnifique chevelure brune attirent autour d'elle une petite cour d'admirateurs à qui elle ne cache pas ses prestigieuses origines. Se réclamer fièrement de l'empereur déchu alors que ses partisans sont pourchassés par la police du roi de France Louis XVIII, c'est faire preuve d'une belle inconscience. Charlotte Chapuis essaye aussi d'entrer en contact avec Marie-Louise, l'épouse de Napoléon, et son fils héritier, mais la police royale alertée l'a fait arrêter. Charlotte Chapuis est enfermée à la prison de Baume-les-Dames, dans le Doubs, où son charme fait des ravages. Son cachot est submergé de lettres, bouquets et paniers de victuailles, tandis qu'un nombre de visiteurs impressionnants demandent audience à la princesse impériale. C'en est trop pour le gouvernement, terrifié à l'idée qu'une coalition s'organise autour de la fille cachée de Napoléon. Charlotte Chapuis, enlevée de sa prison, entravée, bâillonnée, est emportée dans un fourgon de la police secrète, direction la prison de Bellevaux à Besançon, où elle est interrogée, sans doute torturée même. La douleur ou la peur pousse Charlotte à raconter n'importe quoi pendant son interrogatoire. Certes, elle s'est bien rendue à l'île d'Elbe où est enfermé l'empereur, mais c'était uniquement pour profiter du climat. L'invraisemblance de ses réponses ne fait qu'ajouter aux soupçons de la police, persuadée que Charlotte Chapuis espionne pour le compte des bonapartistes. Enfin, après plusieurs mois d'enfer, une nouvelle inattendue tombe. Charlotte Chapuis est libre. En 1816, elle reprend ses habitudes dans le village de Salins. L'école qu'elle dirige est un foyer d'opposition bonapartiste où se tiennent des soirées outrageusement joyeuses au cours desquelles les invités chantent à tue-tête des couplets séditieux. Rebelote, un soir, on toque à la porte.
Charlotte Chapuis, au nom du roi, veuillez nous suivre.
C'est étonnant, cet homme a une voix proche de la vôtre, Mathieu.
C'est fou, hein, on a retrouvé l'enregistrement.
La supposée fille de Napoléon est de nouveau sous les verrous. Cette fois, le gouvernement compte bien l'oublier au fond d'une cellule, mais c'est mal connaître Charlotte, qui a le don de susciter l'admiration partout où elle passe. Le fils d'un prisonnier tombe sous son charme et la demande en mariage. Le préfet accepte de la relâcher, comptant sur l'autorité du futur époux pour calmer les ardeurs de la jeune femme. Mais à peine est-elle sortie de prison que Charlotte Chapuis refuse le mariage. Pire, le maire de Champagnole, où elle est désormais installée, écrit au préfet « Je ne vous dissimule pas que l'arrivée de cette jeune fille dans cette commune agite le pays et met en mouvement les esprits sous le rapport qu'on l'a dit et qu'on la croit à la fille naturelle de Bonaparte ». Les admirateurs de Napoléon se massent autour de Charlotte Chapuis. Il vient aussi des curieux, des commères, des gamins malicieux qui s'amusent à crier « Vive l'empereur !» Un certain Jacob Muller, bel homme d'une quarantaine d'années, devient le chevalier servant de Charlotte Chapuis, mais les éléments sont contre eux. Les autorités voient cette relation d'un très mauvais œil, car Jacob Muller est riche. Il pourrait donner des moyens financiers à la cause bonapartiste. Quant à la famille Muller, elle ne veut pas de la jeune Chapuis qui a mauvaise réputation. Les deux amoureux s'enfuient en Suisse pour se marier. Charlotte Chapuis, la passionnariat bonapartiste, devient Madame Muller, une bourgeoise convenable. Le couple vit paisiblement, entouré de leurs enfants, jusqu'en novembre 1836, lorsque Jacob Muller s'éteint. Charlotte, veuve et très riche, prend la relève professionnelle de son mari, devenant l'une des seules femmes de France à gérer une société industrielle. À plus de 50 ans, Charlotte Chapuis, Madame Muller, connaît sa dernière heure de gloire. On lui demande de soutenir la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'ancien empereur, aux élections présidentielles. Elle ne se fait pas prier, contribuant sans doute au financement de la campagne et appelant à voter pour celui qu'elle appelle « mon cousin ». Le 10 décembre 1848, la magie du nom opère. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République. Il devient quelques années plus tard l'empereur Napoléon III. En remerciement, il nomme Adrien Muller, qui est le quatrième fils de Charlotte Chapuis, maire de la commune de Champagnole. Un maire qui est peut-être le petit-fils de Napoléon.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Charlotte Chapuis, nous sommes avec celui qui s'est plongé dans les archives inédites pour savoir si elle était la fille de Napoléon ou pas. Évidemment, j'ai envie de dire Bruno Fulini. Qui d'autre? Who else? Bonjour Bruno.
Bonjour.
Oui, Bruno Fulini, faut-il le rappeler, vous êtes haut fonctionnaire, maître de conférence à Sciences Po, grand spécialiste des archives de la police, et vous publiez La fille de Napoléon aux éditions Les Arènes. Et voilà une sacrée révélation pour l'année bicentenaire de la mort de Napoléon. C'est le fruit d'un long travail d'enquête qui a commencé Dans un grenier, c'est ça ?
Oui, dans un grenier, un brocanteur ramasse plein de cochonneries, dont un vieux dossier. Ce dossier est vendu à un collectionneur. Ce collectionneur le conserve quelques années, puis décide de s'en défaire. Il passe par un ami à lui, qui est un expert parisien reconnu, qu'il met sur son catalogue. Ce catalogue arrive dans ma boîte aux lettres. Je bondis sur mon téléphone et j'acquiers ce dossier. C'est un dossier extraordinaire, parce que souvent, quand vous achetez des manuscrits anciens, des manuscrits historiques, ce sont souvent des documents isolés, un rapport, une lettre. Bon, là, on a un dossier complet d'une centaine de pages manuscrites sur deux années qui raconte une histoire incroyable, jusqu'alors inconnue. Une jeune fille qui, du côté de Besançon, en 1815, peu de temps après Waterloo, eh bien, se déclare fille naturelle de Napoléon. Et à partir de là, les ennuis vont pleuvoir sur sa tête. Elle va être arrêtée, séquestrée, torturée, plein de... parce qu'elle représente un vrai danger politique. Et je me suis penché sur ce dossier, au départ, j'imaginais une histoire classique d'imposture hein, dans ces années très très troublées, 1814-1815, il y a même eu des faux Napoléon, donc ça m'aurait déjà bien suffi, une imposture un petit peu amusante. Oui, mais en creusant, là, le doute s'installe, parce qu'on voit que l'affaire remonte au plus haut niveau de l'État, ça actionne toutes sortes de choses, et puis, à la fin, par des sites de généalogie, j'ai retrouvé les descendants actuels vivant de cette Charlotte Chapuis. La tradition s'est maintenue dans leur famille. Ils se considèrent comme descendants de Napoléon Bonaparte. Et surtout, ils possédaient un tableau. Et on voit sur ce tableau le visage de Charlotte. Et alors là, l'air de famille est stupéfiant, extraordinaire.
C'est-à-dire, on peut faire une étude ADN maintenant. Avec l'ADN mitochondrial, on peut tout à fait...
Les experts Stéphane Bern.
Non, mais c'est vrai, on peut vérifier avec une mèche de cheveux de Napoléon s'ils ont un ADN en commun.
Disons que je pense que ce sera la prochaine étape. Moi, je ne suis pas scientifique. L'ADN mitochondrial, c'est moins probant que l'ADN nucléique. Évidemment, quand on passe par les femmes, on n'a pas le choix. Et ça ne peut être que l'ADN mitochondrial. Il faut aussi que l'échantillon napoléonien soit authentique. Oui. Et là, il faut faire attention. Même, c'est sûr, là que les expertises ADN...
Il y a plein de cheveux. Il y a des mèches qui ne sont pas très authentiques.
Et les fausses mèches de Stéphane Bern qui circulent sur
eBay. Pour vous, Bruno Fulini, elle est... Fille de Napoléon, fille oubliée, fille présumée, fille aînée, pour vous, c'est qui Charlotte Chapuis ?
Alors c'est tout cela à la fois. D'abord, c'est une jeune femme charmante, belle, intelligente, maligne, pleine de ressources. Elle a des qualités qu'on retrouve chez son père. Elle est intelligente, elle a une intelligente tacticienne qui lui permet de se sortir des pires situations, de retourner des situations qui paraissent désespérées. Elle a du cran, elle a de la volonté. Elle a un visage très napoléonien. Est-elle vraiment la fille de Napoléon Bonaparte ? C'est difficile de le prouver absolument.
Mais vous en êtes persuadé.
Moi, j'ai fini par être troublé. Je suis parti avec l'idée que c'était une imposture, et à force de travailler dessus, et compte tenu des éléments que j'ai accumulés et qui sont développés dans l'ouvrage, je me dis que oui, ça peut être effectivement une fille de Napoléon, et pas n'importe quelle fille. En fait, ce serait sa fille aînée, c'est une fille qu'il a eue vraiment dans ses jeunes années comme officier, bien avant de devenir non seulement empereur, mais même consul. Elle est née dans les dernières années du XVIIIe siècle. Alors, j'ai fini par retrouver son acte de naissance. Elle a bel et bien existé. Elle est née le 22 août 1795. Donc, si Charlotte Chapuis est la fille de Napoléon, elle est sa fille aînée. Et c'est aussi pourquoi elle représentait un danger. Parce que, bien sûr, une femme ne peut pas régner sur l'Empire. En revanche, une maman peut réclamer la régence pour son fils. Et donc, une jeune femme de 20 ans en 1815, si elle tombait enceinte, aurait pu... demander la régence pour son fils et donc réclamer des droits sur la succession impériale.
Que ce soit vrai ou pas, en exergue de votre livre, il y a cette citation de Napoléon « En France, on n'admire que l'impossible ». Le destin de Charlotte Chapuis, aussi invraisemblable qu'il puisse paraître, lui donne raison. Elle est admirable, Charlotte Chapuis, son destin en tout cas.
Elle force le respect. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne, mais qui a eu par contre beaucoup d'ennuis, qui a été aux prises avec cette chose qui s'appelait le ministère de la police générale. Ça ne plaisantait pas quand vous aviez le ministère de la police générale, Fouché d'abord, puis le duc de Cazes contre vous. Vous aviez affaire à forte partie. Elle a fini par les manipuler, les flouer, par échapper aux sbires du ministère de la police générale. Son histoire l'histoire commence un petit peu à la façon du masque de fer, hein, puisqu'on l'attrape, on l'enferme, et puis elle se révèle assez vite une sorte de comte de Monte Cristo au féminin, une comtesse de Monte Cristo, puisqu'elle sort du cachot et qu'elle va même faire un riche mariage et devenir, vous l'avez raconté, cette femme influente, importante, en même temps avec beaucoup de discernement, c'est-à-dire qu'elle va bien gérer sa fortune, elle va bien gérer sa carrière, elle va pousser un de ses fils qui, vous l'avez dit, va avoir une carrière politique. Donc tout ça est tout à fait intéressant. Alors j'ai retrouvé aussi une photographie de ce fils, une photographie qui date du Second Empire, et là c'est tout à fait incroyable. Il pose la main sur l'estomac, exactement dans l'attitude de son grand-père.
Mais ça, il peut le faire, pour forcer la ressemblance, si vous voulez.
Certes, mais quand vous êtes un homme politique, est-ce que vous avez vraiment envie de...
Se revendiquait lui aussi héritier de Napoléon, non ?
Il se déclarait républicain, donc c'est assez curieux comme attitude.
Bah, Napoléon mettait la main sur son estomac parce qu'il avait un ulcère. Mais c'est
c'est votre théorie ?
C'est pour ça qu'il avait la main sur le
estomac. C'est ce qu'on dit le plus souvent, c'est devenu non, je pense que c'est une attitude, presque une provocation dans le cas d'Adrien Bulaire. C'est une façon de marquer. Et vous savez que j'ai rencontré tout récemment les descendants de Charlotte Chapuis avec une photographe, et spontanément ils ont posé dans cette attitude, donc ils sont tous les quatre avec la main sur l'estomac, exactement dans la même attitude que Adrien Miller.
C'est l'atavisme. Oui, il y avait un très beau reportage dans Paris Match, j'ai vu ça, mais on voyait toute la famille. Et donc ils peuvent donner un peu de d'ADN, comme ça on pourra vérifier.
Oui, ça serait bien de savoir.
Mais cela dit, on parle du père illustre, on pourrait parler de la mère aussi, de Charlotte Chapuis.
Alors la mère, c'est pas forcément très brillant, hein. Donc
elle
s'appelait Catin, elle se faisait appeler Cotin, mais elle s'appelle Antoinette Catin. Alors elle a quand même le nom de Chapuis parce qu'elle a épousé quelqu'un qui visiblement n'était pas très reluisant non plus, un moine défroqué.
Oui, un moine défroqué, c'est pas non plus tout ça.
C'est pas le grand monde, hein. Et on peut supposer que ce moine défroqué, dans les années qui suivent la Révolution, vit un petit peu au crochet de cette femme qui a des relations multiples dans des villes de garnison. Bref, un certain nombre d'indices laissent penser qu'on a affaire à une fille à soldat qui a eu 24 enfants. 24 enfants, sans doute de pères très différents les uns des autres. Et
comment elle peut savoir justement que celui-là est de Napoléon ?
Mais oui.
Pardon, parce que quand vous voyez passer beaucoup de monde,
Effectivement. Alors, Napoléon Bonaparte, même jeune, ne passait pas complètement inaperçu. Il est vrai qu'il était pauvre, il est vrai qu'il n'avait pas de quoi séduire tant que ça. En revanche, il avait déjà une physionomie particulière, un tempérament particulier. On sait par les témoignages de ceux qui ont étudié avec lui ou ceux qui ont été en garnison avec lui à Auxonne ou dans d'autres lieux, qu'il avait un comportement un peu particulier, par exemple, il allait peu voir les dames, il allait peu dans les lieux de perdition, il buvait peu, il était très sobre, on le remarquait. Donc c'était quelqu'un qui était de toute façon identifié. Ce qui est certain, c'est que sur le moment, elle n'y a pas accordé plus d'attention que ça, lui ou un autre. C'est ultérieurement, voyant grandir en quelque sorte ce personnage, le voyant accéder à des responsabilités de plus en plus élevées, et puis finalement empereur, qu'elle réalise que peut-être il est le père de sa fille, et puis sa fille, elle a quelque chose de particulier aussi. Elle, pour une bourguignonne, elle a un type incroyablement latin, elle a un tempérament particulier, ce qui fait que cette fille, par exemple, fille vraiment issue de pas grand-chose, va bénéficier d'une éducation. C'est-à-dire que la famille va visiblement se cotiser pour qu'elle suive des cours, qu'elle soit en pension à Paris, rue de l'université, donc très loin, justement, des lieux de perdition que fréquente la mère. Dès l'enfance, c'est un destin assez étonnant, assez curieux. Et alors, là, on presque un coup de théâtre, la mère expire quelques jours après la naissance de l'aiglon, comme si elle ne pouvait survivre à la nouvelle que Napoléon Bonaparte a eu un enfant légitime et que l'Empire a un héritier pour la couronne.
Vous terminez votre livre en imaginant l'épitaphe gravée sur la tombe de Charlotte à Champagnole. Est-ce que vous pouvez nous la lire ?
Alors, le premier qui fut roi fut un soldat heureux, qui sert bien son pays, n'a pas besoin d'aïeux. C'est en fait un extrait d'une tragédie de Voltaire. Donc on a l'esprit un petit peu des Lumières, l'idée que les rois ne sont pas de droit divin, mais que les rois se sont faits eux-mêmes. C'est intéressant parce que c'est à la fois l'histoire de Napoléon, finalement l'homme qui se fait roi et même empereur. Ça témoigne de la mauvaise pensée de Charlotte Chapuis. Une des raisons pour lesquelles elle a été poursuivie, c'est qu'elle représentait une branche un petit peu anticléricale, révolutionnaire du bonapartisme. Et puis, c'est aussi le résumé de sa vie, qui sert bien son pays, n'a pas besoin d'aïeux. Au fond, c'est quelqu'un qui a toujours été généreux, qui a toujours été bon. Et finalement, elle a servi son pays, même si elle n'était pas fille de Napoléon Bonaparte, c'eût été de toute façon quelqu'un d'intéressant et d'important.
Mais c'est bien de le rappeler. Merci Bruno Fulini. Je rappelle le titre de votre livre, La fille de Napoléon, qui vient tout juste de paraître aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup.
Merci Bruno.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les autres enfants de Napoléon. Après Eugène de Beauharnais et Charlotte Chapuis, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de celui qui est plus que le descendant de Napoléon, c'est son sosie.
Oui, alors on a tous une vision un peu biaisée et disons-le, caricaturale du hobby qui consiste pour le passionné à devenir le sosie de quelqu'un de célèbre. En cause notamment le personnage de Bernard Frédéric, sosie officiel de Claude François dans le film Podium.
La poésie c'est plutôt Brassens, non ?
Tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein ? Votre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin.
C'est sûr que c'est un film qui n'a pas fait beaucoup de bien à la profession respectable au demeurant de sosie. Pourtant, on peut parfaitement être sosie et ne pas avoir de suivi psychiatrique particulier. Est-ce une bonne chose ? Vous me direz ça à l'issue du portrait de Franck Sanson, qui fut jusqu'en 2015 le sosie officiel et presque incontesté de Napoléon Bonaparte. C'est lui en tout cas qui incarna l'empereur lors de la reconstitution historique majeure de ces dernières années, la reconstitution bicentenaire de la bataille de Waterloo à Waterloo, du 18 au 21 juin 2015, devant 60 000 spectateurs et au milieu de 6 000 reconstitueurs. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle, ces doudingues passionnés qui viennent bénévolement tirer dans la gadoue des canons qui pèsent un âne mort.
Ah, c'est intéressant.
Ne soyez pas focus, Stéphane, c'est chiant. Alors vous me direz, quel est le profil des participants ?
J'étais membre du souvenir napoléonien.
Voilà, des gens plutôt chelous, plutôt dépressifs, mais animés d'un certain goût de l'histoire. Des gens bizarres, mais cultivés. Mais surtout bizarres. Des gens extrêmement motivés, en tout cas, qui fournissent leurs propres accessoires, leurs propres costumes. Beaucoup les fabriquent eux-mêmes avec un souci du détail étonnant. Ils bivouaquent pour de vrai en attendant de se prendre une pilée par la coalition anglo-prussienne. Pourtant, ils savent comment ça va se finir. Ah ben non, ils viennent quand même. Et régulièrement en plus, alors évidemment, le cru 2015 était particulier. Comme le dit un retraité britannique qui patientait à la buvette avec son kawé et son thermos, un bicentenaire, on n'en voit qu'une fois dans sa vie. Bien vu. Franck Sanson, c'est sûr, mathématiquement. Franck Sanson a donc incarné l'empereur ce jour-là. Mais comment s'est-il retrouvé là ? Avocat de profession, passionné d'histoire, il est surtout fan des uniformes militaires de l'époque napoléonienne qu'il collectionne. Il chine, écume les annonces eBay et se constitue au fil des années un dressing impressionnant avec la complicité d'un costumier qui partage sa passion. Il a toute la panoplie de Napoléon, le costume de chasse, les uniformes d'apparat, de combat et même la tenue du sac, la totale. Un jour, tout bascule. Oui, pardon, j'ai acheté la compile 3 heures de musique napoléonienne, je rentabilise un peu. La ville de Dinard organise une année impériale et le pote costumier et breton suggère innocemment à Franck de venir habiller en Napoléon. Trop content, Franck réplique en tenue d'apparat. Son entrée au casino de Dinard, au bras de son épouse Delphine habillée en impératrice, est un succès colossal. Adoubé par les reconstitueurs, il est invité régulièrement à apparaître en empereur et enchaîne les prestations dans toute l'Europe. On salue sa ressemblance, mais lui préfère parler de vraisemblance. Il a la fossette au menton, un nez tout à fait crédible et un bon bidon, dont il dit qu'il lui laisse encore de la marge pour attraper Napoléon dans ses dernières années. Il a aussi la taille, au centimètre près, 1m68. Il s'attache au moindre détail, il porte même l'autre colonne Farina de l'empereur dans un flacon identique qu'il a trouvé sur internet. Il a tout bossé, les bios, les récits des contemporains, et il a appris à monter à cheval, à parler corse et à danser le quadrille. C'est une immersion totale, il a même travaillé le champ sémantique de son idole qui, paraît-il, jurait comme un chartier, Stéphane. « On va les baiser au cul !» répétait-il ainsi avec tendresse à propos de ses ennemis. Il paraît même que lorsqu'il affrontait l'Angleterre, il était pas très respectueux de la reine puisqu'il lançait à ses grognards que l'objectif c'était
« Baiser le cul de la vieille !»
Oh non. Franck, je vous l'ai dit,
C'était un roi d'Angleterre.
N'est pas Napoléon à plein temps. C'est une passion qui lui coûte plus qu'elle ne lui rapporte. Alors dans la vie, pour gagner sa croûte, il a un métier un peu moins sexy que Napoléon, avocat spécialisé dans la contestation des PV pour infraction routière. Bon, à la question, ne faut-il quand même pas être un brin mégalo pour devenir le sosie de Napoléon ? La réponse est peut-être, car avant d'incarner l'empereur, Franck Sanson avait déjà un hobby dénotant une certaine estime de soi, puisqu'il avait créé, sur le mode humoristique mais quand même, une micronation dont il était évidemment l'empereur. Micronation s'étendant sur la commune de Saint-Tual, en Ille-et-Vilaine, où il était conseiller municipal, puis donc empereur de droit divin de la Basse-Chênaie. Je cite « L'empereur est le seul monarque actuel à disposer de preuves irréfutables et écrites de son ascendance divine ». Même si pour le moment il ne sait plus du tout où il a fourré ses maudites preuves, sûrement dans quelques tiroirs, il les cherche. Donc en attendant, Sa Majesté vous demande de le croire sur parole. Merci. Franck est donc, vous l'avez compris, un petit peu un comique. Mais attention, en ce qui concerne son interprétation de Napoléon, là, il déconne moins. « Pas touche à mon bicorne, motherfucker !» C'est en substance ce qu'il a dit à un autre sosie de Napoléon qui voulait sa place pour la reconstitution de Waterloo en 2015. « Motherfucker !» Car oui, Stéphane, je sais qu'on frôle là le blasphème, mais le concurrent le plus redoutable de Franck est un ricain. Un ricain pour incarner Napoléon.
C'est dégoûtant.
Moi aussi, lui aussi, Stéphane. Son nom, Mark Schneider, un ancien soldat de l'US Army qui a le physique, une vraie gueule et monte très bien à cheval. Il est le meilleur sur le champ de bataille où il est littéralement l'empereur. Sanson est meilleur à la cour, entouré de son état-major, explique doctement Thierry Chauffat, président de l'Association des Vosges napoléoniennes. Ça existe. Marc est parfait en Bonaparte, c'est-à-dire avant 1804 qu'on cède Sanson, avant de passer à l'offensive. Outre une jolie fossette sur le menton, l'avocat revendique un atout maître, sa bedaine, son impérial bidon. Et encore, je suis à peine assez gros car sur la fin, l'empereur était vraiment devenu très gras, conclut Franck, taclant ainsi Schneider qui serait donc trop svelte. Et c'est là qu'on découvre une autre guerre derrière la fausse guerre de ceux qui miment la vraie. La guerre des fans des sosies de Napoléon. Car oui Stéphane, entre les sansonistes et les schneideristes, ça sent la poudre. En 2015, d'ailleurs, une lettre anonyme avait contesté l'attribution de Waterloo à Sanson, qui avait porté plainte et mis sur sa page Facebook « La tête du corbeau a pris ». La missive, rédigée dans un mauvais anglais, cible Sanson, critique l'organisation belge de Waterloo 2015 et épingle Madame Sanson, qui, tenez-vous bien, aurait gagné de l'argent dans la photographie de charme. Indigne d'une impératrice, jasent les détracteurs de Sanson. Bon, les esprits se sont un peu calmés depuis, Franck a abdiqué après la reconstitution de 2015, comme il l'avait prévu d'ailleurs de le faire. Le maigrichon Schneider l'a remplacé. Aujourd'hui, désormais, dans les reconstitutions historiques, on n'entend plus retentir l'accent corse parfaitement maîtrisé de Franck, mais un Américain coiffé d'un bicorne s'exclamant « Avec moi, mes grognards, on va les baiser au cul !» David, en tant qu'ancien membre du souvenir napoléonien, ça vous fait quoi de savoir qu'un Américain incarne désormais officiellement l'empereur ?
Ça donne envie d'attendre un peu avant de se suicider.
C'est bien résumé. C'est ça que ça me fait aussi comme effet.
Merci Mathieu, c'était bon, 99...
Oui, non, tout était vrai, parce que quand on parle d'un sosie, tout est vrai. Tout est son vrai, petit royaume, sa petite nation, c'est drôle fou, de bonhomme. Hein, et si vous avez un problème un jour avec vos poings, parce que vous conduisez un peu vite votre Mini Cooper...
Non, mais pour les PV, c'est très bon...
C'est un ponte de...
Vous l'avez expérimenté?
Pas du tout, parce que moi, je ne dépasse jamais les limitations de vitesse.
Non,
je respecte
même
toutes les règles.
Même avec votre bolide?
Même avec ma Punto, effectivement. Effectivement, ouais, c'est vrai que je l'ai upgradé un peu, 20 chevaux de plus, mais néanmoins, non, je respecte les limitations.
Vous me voyez rassuré, Mathieu.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Castello-Lopez. Chaque jour, vous nous entraînez aux origines d'une invention qui fait notre quotidien ou d'une tradition. C'est un peu d'une tradition dont vous nous parlez aujourd'hui, le pop-corn au cinéma.
Oui, le pop-corn au cinéma, je pense que c'est vraiment une des choses qui révèle le plus clairement et le plus immédiatement la nature humaine. Pourquoi ? Eh bien parce que quand c'est nous qui sommes en train de le manger, on est infiniment content et on détesterait qu'on nous empêche de le faire. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le mange à côté de nous, cette personne devient la personne qu'on hait le plus au monde. Je veux dire, si quelqu'un à côté de vous au cinéma est en train de manger du pop-corn en faisant des bruits de bouche pendant qu'un film vous captive et que là la Gestapo arrive dans le cinéma et dit « Nous cherchons Samuel Rosenblum », eh ben direct vous dites « C'est lui là, c'est le mec qui mange le pop-corn ». Et vous savez quoi ? Non seulement il est juif, en plus je l'ai vu faire des petits doigts au fureur en scred comme ça. Voilà. Enfin, si c'est vous qui êtes en train de manger le pop-corn en faisant du bruit, là, vous considérez soudain que c'est votre droit le plus inaliénable. Et si quelqu'un à côté de vous dit « Est-ce que vous pouvez faire moins de bruit, s'il vous plaît ?» Vous dites que « Quoi ? On est en démocratie, monsieur. Moi, mes aïeux, ils se sont battus pour un monde libre. C'est pas pour qu'on vienne me dire que je fais du bruit en mangeant du pop-corn, espèce de nazi. » Voilà. Et c'est vrai, quel plaisir quand même, je veux dire. Le pop-corn à la maison, c'est sympa, mais le pop-corn au cinéma, c'est divin. Tous les types de pop-corn, d'ailleurs. Même le pop-corn baf, dont la publicité, au passage... Le popcorn baf, vous vous souvenez de la publicité du popcorn baf quand on était petit, Mathieu, c'était un grain de popcorn qui faisait de la planche à voile.
Voici le popcorn bap, du popcorn enrobé d'un rien de caramel.
Il était là, comme ça.
Sur c'est ce... les mêmes voix que dans Il était une fois la vie.
Exactement. Exactement. Je me demande même si c'est pas le même dessinateur. Alors moi, bien sûr, je pensais que le popcorn au cinéma, c'était aussi ancien que le cinéma.
Oui.
Mais en fait, non. Pendant les 30 premières années de l'existence des salles de cinéma, il n'y avait pas de popcorn dedans. Et même d'une façon générale, les salles essayaient de dissuader les gens d'amener à manger devant les films. Enfin, c'est encore le cas dans une certaine mesure. Hein. Si vous amenez une blanquette à l'UGC, vous serez sans doute mal reçu.
Témoignage.
Eh bien, je ne comprends pas pourquoi. C'est mon droit de me libre, après tout. Hein.
Mais à une époque, eh bien, les propriétaires de salles, ils voulaient même pas du pop-corn parce qu'ils disaient que ça allait dégueulasser leurs beaux sièges et leurs beaux tapis. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Andrew Smith et qui écrit une histoire du pop-corn aux États-Unis. Et selon lui, c'est impossible de savoir exactement qui est la première personne à avoir eu l'idée de vendre du pop-corn au cinéma. Mais il a quand même identifié une dame qui s'appelle Julia Braden et qui, à la fin des années 20, dans un cinéma de Kansas City, a convaincu le propriétaire de la laisser vendre du pop-corn dans le hall de la salle. Elle a ensuite obtenu le même droit de 4 autres salles dans la région. Et ça a été un tel succès que rien qu'avec ces 4 concessions, la dame en question se faisait l'équivalent de plus de $300,000 par an, juste avec du pop-corn. Et donc, il s'est pas passé longtemps avant que les salles conviennent que ce serait dommage de laisser toute cette thune sur la table à d'autres gens. Et à partir des années 40, aux États-Unis, donc, les salles de cinéma, elles avaient en gros toute un stand de pop-corn. Et elles se sont rendues compte que le pop-corn commençait à représenter une plus grosse part de leurs revenus que la vente de billets.
Mais oui.
Et c'est vrai encore aujourd'hui. Il y a certaines chaînes de cinéma qui font 85% de leurs revenus sur la nourriture qu'elles vendent, et non pas sur le prix des billets. Et on comprend pourquoi. Vous savez quelle est la marge que se font les cinémas en moyenne sur le pop-corn ?
C'est énorme, je crois que c'est énorme.
1000%.
Ah, okay. 1000%, c'est une belle marge.
1000%, ah, oui. C'est quand même dingue. Alors, nous, quand même, en France, on reste un tout petit peu civilisés avec le pop-corn, mais les Américains, non. Donc, non seulement ils achètent du pop-corn, mais en plus, si vous êtes allé dans des cinémas aux États-Unis, vous avez vu, ils mettent dessus du beurre fondu sur des espèces de trucs comme on met du ketchup
c'est
comme
bon.
Ça.
Après, tu en as plein les doigts.
Oui, voilà, et ça se retrouve ensuite sur les doigts, sièges. Et bien sûr, sur les accoudoirs
sur les
sièges.
Accoudoirs,
mais ça fait longtemps que les cinémas, ils en ont plus rien à foutre d'avoir ça sur les accoudoirs des sièges parce qu'ils peuvent nettoyer. Parce qu'avec des marges de 1200%, on peut très bien payer des services de nettoyage et rester quand même super bénéficiaire.
Oh, ça me donne tellement envie. Mais ouvrons les cinémas, Stéphane.
Mais au moins pour vendre du pop-corn.
Au moins, au moins, quel plaisir. Alors ça, par contre, oui, si on ouvre les cinémas, on pourra pas mettre le pop-corn en même temps. Parce que là, c'est plus Covid, friendly.
C'est l'un ou l'autre.
C'est l'un ou l'autre.
Moi, j'irais quand même bien avec une blanquette au cinéma. Je tenterais bien le coup.
Je rappelle qu'autrefois, au théâtre, on y allait avec son manger, comme on disait.
Ah oui?
Bien sûr.
Mais son pique-nique.
Sous Shakespeare,
il y avait des noisettes en particulier.
Oui, on mangeait, on venait avec son dîner. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et si vous essayez de manger un Paris-Brest au cinéma, vous êtes
c'est
un
pas
champion.
Sur la couloir, là, on se le met dessus.
On se le met dessus. Comme dit Stéphane, effectivement, l'origine du Paris-Brest et sa confection facile, c'est promis. C'est avec Olivier Poulin.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il est notre enquêteur gastronomique de l'histoire. Olivier Pouls est avec nous pour nous raconter aujourd'hui l'origine d'une pâtisserie qu'on adore, qui est un petit peu technique à réaliser, le Paris-Brest.
Oui, c'est pas la plus simple, mais c'est vrai que globalement, la pâtisserie n'est jamais très facile à réaliser. Alors, pour trouver les origines du Paris-Brest, il faut se pencher sur l'origine et l'histoire d'une course cycliste. Éponyme.
Qui n'existe plus,
qui s'appelait Paris-Brest-Paris. Vous imaginez
mais
un peu.
Mais c'est trop simple d'aller de Paris à Brest.
Non, mais, alors, cette course cycliste a été créée en 1891 par un certain Pierre Giffard, qui était le patron du Petit Journal et voulait faire la promotion du vélo à Brest. Donc, il s'est dit, on va emmener des vélos là-bas, puis ça a donné l'idée aux gens, et tant qu'à faire, on va revenir aussi. Donc, c'était quand même 1200 kilomètres. À vélo, et il n'y en a eu que 7 éditions, figurez-vous, entre 1891 et 1951. Et pour faire la promotion de cette course, eh bien, il a demandé à un pâtissier qui était situé à Maisons-Laffitte, donc une ville par laquelle passait la course, de créer un gâteau en l'honneur de cette course de vélo. Ce qu'il a fait, le pâtissier s'appelait Louis Durand, et il a donc l'idée d'élaborer cette pâtisserie en forme de roue de vélo, parce que le vrai Paris-Brest tel qu'il doit être présenté, on en trouve maintenant des petits individuels, etc., mais normalement le vrai, c'est une forme, c'est grand, hein, ça doit faire une quarantaine de centimètres de diamètre, et c'est la forme d'une roue de vélo. Alors c'est constitué en réalité d'une pâte à choux, garni d'une mousseline pralinée et agrémenté de quelques amandes effilées. Alors vous allez me dire, bon, maintenant, pour faire ça, ça doit pas être de la tarte, c'est le cas de le dire. C'est un petit peu de boulot, mais franchement, c'est réalisable. Alors, la pâte à choux, on en a déjà parlé. Donc, je vous redonne rapidement les ingrédients et puis je mettrai les détails sur europe1.fr. 4 œufs, 25 centilitres d'eau, 100 grammes de beurre et 150 grammes de farine. On va mélanger ensemble, qu'on va dessécher. On va donc faire une couronne, une forme de roue de vélo avec une poche à douille qu'on va cuire dans un four pendant 45 minutes à 180 degrés. Ça, c'est la base. Et puis, eh ben, il nous faut faire notre petite crème. Alors là, pour ça, il vous faut 4 jaunes d'œufs, 150 grammes de sucre, 100 grammes de praliné, ça c'est important, c'est le goût du Paris-Brest, hein, 25 centilitres de lait, 100 grammes de crème liquide, 100 grammes de beurre et des amandes effilées. Là aussi, je vais donner tout le détail de la réalisation de cette crème. Enfin, en réalité, on part d'une base d'une crème au beurre et on va l'alléger en rajoutant de la crème liquide montée en chantilly.
Donc c'est pour donner light, quelque en chose. Fait, le Paris-Brest.
Bah, c'est light, n'exagérons pas, parce que quand vous avez le détail de tout ce que je vous ai donné comme produit, il y a quand même quelques calories dans
J'essaie
tout ça.
De me rassurer.
Mais bon, normalement, ça doit avoir un côté assez aérien. C'est ça le secret d'un bon Paris-Brest. Faut pas que la crème soit trop collante, soit trop lourde. Et donc, vous allez ouvrir votre roue de vélo en deux, vous allez mettre la crème au milieu, vous refermez, et puis on rajoute un tout petit peu de sucre glace par-dessus pour faire tout joli. Et voilà, ça, c'est la réalisation du Paris-Brest. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a de nombreuses interprétations du Paris-Brest. Et la dernière est assez amusante. C'est l'ambassade de France en Grande-Bretagne qui m'a contacté, figurez-vous.
Pour
me dire qu'ils avaient créé un Paris-Londres. Ils avaient fait appel, ils ont lancé un concours auprès de cuisiniers pour faire un Paris-Londres et faire une espèce de petit clin d'œil, un pont entre la France et la Grande-Bretagne en cette période de
Mais ça va être un gâteau dégueulasse avec de la jelly dedans, ça va être
Alors, celui qui a gagné, c'est l'un des chefs cuisiniers de chez Guy Savoy, il s'appelle Guillaume Godin. Et donc, il réalise un Paris-Londres à base d'une tatin de pommes et de mousse de thé d'Argeling. Je l'ai pas goûté, mais je crois que c'est pas mal.
Bah,
et donc,
commençons par là.
Voilà, le pont c'est entre la tarte tatin française et le thé d'Argeling anglais. Donc, c'est un Paris-Londres et il y a plein d'autres variantes qui existent.
Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver évidemment toutes vos recettes sur le site europe1.fr ainsi que la chronique qui suit une fois que Stéphane nous l'aura livré. Le mot de la fin, chaque jour l'histoire d'une expression. Aujourd'hui,
Baragouiner,
d'où ça vient. Mot intéressant en tout cas. Baragouiner.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il est notre Bernard Pivot à nous.
Oh non, exagérez pas.
Ah oui. Oui, vous êtes Bernard Pivot, une version moderne, jeune et
autant
fougueuse.
Autant que votre Franck Sanson et votre Napoléon.
Oh, enfin, il est très ressemblant. Chaque jour, l'histoire d'une expression, Stéphane.
Oui, Mathieu, quand parfois dans cette chronique, je vous donne des expressions en espagnol ou en anglais dans le texte, il est possible qu'intérieurement, enfin, vous êtes malicieux, évidemment, vous dites, mais qu'est-ce qu'il baragouine? Baragouiner? Mais d'où ça vient?
Alors, baragouiner, c'est quand on parle mal une langue, quand on essaye de le faire, mais sans que le résultat soit terrible. Par exemple, si Stéphane, je vous ai fait un karaoké, une chanson de Queen, par exemple, même avec les paroles affichées, vous allez me baragouiner du Freddie Mercury.
Oh, je dois admettre que c'est fort probable, Mathieu. Baragouiner vient de la langue bretonne. Oui, à la fin du 19e siècle, durant la guerre franco-prussienne, les soldats bretons avaient toutes les peines du monde à se faire comprendre. En fait, ils ne voulaient pas vraiment se faire comprendre, ils voulaient surtout deux choses, du pain et du vin. Le pain se dit bara et le vin se dit gouine. Oh. Pour résumer, ils arrivaient dans une auberge et ils disaient bara gouine. Il n'en faut pas plus pour faire naître le baragouinage.
On est sûr de ça, c'est authentifié?
À moins que l'origine
et sur la connerie d'abord
de cette expression ne vienne d'une toute autre provenance. Pour Gilles Ménage, un linguiste du XVIIe siècle, le baragouin vient de barbaracuinus, c'est du latin. Ce mot est un dérivé du grec barbarus, barbare. Et barbaracuinus, c'est le bredouillement. Chose étonnante, en breton, pour dire baragouiner, on dit grégachigne, à savoir parler grec. La boucle est bouclée, non?
Oui, totalement.
Voilà, je ne sais pas vous, mais personnellement, je préfère largement l'histoire des Bretons affamés et assoiffés qui arrivent dans une auberge et disent « Baragouine !» C'est tellement plus sympathique.
C'est beaucoup plus pittoresque, en effet, Stéphane. Moi aussi, je vote pour cette hypothèse-là. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Il était consacré aux enfants de Napoléon. Est-ce qu'on sait combien il en a eu au total, Stéphane, si on compte tous les illégitimes?
Ah non, enfin moi, je serais incapable. Mais je sais qu'il en a eu avec Marie Walewska. Il en a eu... Non, il en a un certain nombre, oui.
On peut renvoyer au livre de Bruno Fulini. Je crois qu'à la fin, Bruno Fulini, qui était notre invité tout à l'heure, la fille de Napoléon, il y a un arbre généalogique qui m'a l'air assez compliqué.
Oui, il a eu qu'un fils officiellement, un beau-fils dont on a parlé, plus...
Regardez-moi ça, Stéphane, sur Europe 1.fr, vous voyez que, visiblement, il a essaimé l'empereur, tellement qu'on peut le dire. Et c'est qui aujourd'hui l'héritier légitime de l'Empire, Stéphane, ça vous le savez?
Oui, Jean-Christophe, prince Napoléon.
Un ami à vous?
Je le connais, voilà, oui. Et demain, il a l'avantage de descendre à la fois de Napoléon et de Louis XIV. C'est drôle, non?
Ah, ça. Oui. L'histoire se rejoint en lui.
C'est fou.
Ah, c'est beau.
C'est fou.
Et demain, quel est le programme, Stéphane? Oui, je vous pose plein de questions comme un enfant, là.
Oui, je vous sens tout émoustillé, frétillant sur votre chaise.
Ça dépend du programme
chaise.
De demain.
J'ai toutes les réponses. Hein. Ça tombe bien. Demain, on réunit des poètes disparus. Ronsard, Serge Gainsbourg, dont on célèbre l'anniversaire de la mort, et le comédien Robin Williams, qui réunissait les poètes disparus en cercle. Vous vous souvenez?
Ah, les poètes disparus. Voilà un programme qui me réchauffe l'âme. C'est un Alexandra, c'est un cadeau.
C'est très beau, Mathieu. À demain, Mathieu, à demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.